fort et reclus.
Senza tregua e piena sinamono son valiente. Antes que se vayan los últimos pedazos de ahí. Still wanna learn day by day.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Forêt Reclus en Liberté sur Radio Périgueux 103, 102.3 FM et Radio Plaisance 95.9 en Périgord Noir avec Fantasio. Aujourd'hui on poursuit notre série sur les violences policières et l'idéologie sécuritaire. On a fait une émission avec Walid du comité Vérité et Justice pour Hakim Hajimi, tué par la police de Grasse en mai 2008. À la marche du 19 mars à Paris contre les violences policières, les différents collectifs se sont constitués en collectif national, vie brisée par la police. On s'est fait aussi l'écho dans cette série de la rencontre organisée à Nice le 5 février dernier par le comité Hakim Hajimi. Donc on a diffusé les interventions de Pierre Thévagnan sur l'impunité des crimes policiers, celle de Mathieu Rigouste avec des outils pour comprendre que la violence policière est systémique. Donc toutes ces trois émissions, on les retrouve sur l'audioblog de l'émission. Donc audioblog.arteradio.com/forêt-reclus à l'Elysée. Aujourd'hui, on diffuse un entretien réalisé par Canal Sud à Toulouse en mars. Un entretien avec Mathieu Rigouste à propos de son dernier ouvrage. Je vais vous lire un petit bout de la quatrième de couverture. En étudiant cette bande, la bande à Bauer et ses réseaux, leur positionnement dans le champ de la production du contrôle, ce qu'ils disent et ce qu'ils font, leur profit et leur stratégie, l'auteur met à disposition des cartes et des outils pour attaquer la dimension idéologique des sociétés de contrôle. Bonne écoute.
Ce que vous allez maintenant écouter provient de Son en Lutte. Son en Lutte,
c'est la plateforme d'échange radiophonique entre radios libres qui met en commun les différents reportages, interviews et documentaires sonores en rapport avec les luttes.
Une musique pas faite pour 100 personnes mais pour des millions.
Suivez les luttes racontées par leurs acteurs en téléchargement et écoute libre sur sonenlutte.net.
Sur sonenlutte.net.
Sonenlutte.
SONSENLUTTES.net.
Sonenlutte.
Sonenlutte.
C'est là que ça se passe.
Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Pour des millions. Des millions.
Are you ready?
Mathieu Rigouste, auteur d'un livre qui vient de sortir chez Libertalia, Les marchands de peur, la bande à Bauer et l'idéologie sécuritaire. Donc peut-être pour commencer, pourquoi ce bouquin?
Bon, ça s'inscrit dans plusieurs années de boulot, d'enquête sur le système sécuritaire. Peut-être qu'il faut que je résume un peu ça. Après, c'est une demande. On m'a demandé de faire un outil sur tous ces spécialistes de la sécurité qu'on nous rabâche à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, etc., qui viennent nous expliquer que le problème, c'est pas la précarité, la misère, les violences policières, les violences faites aux femmes, etc., que les problèmes, en fait, c'est les islamistes cachés dans les cités, les incivilités, la délinquance, etc. Moi, mon boulot, ça s'organise autour d'une question centrale qui est assez simple, en fait, et qui se demande pourquoi ça tient. Comment il se fait que dans une société inégalitaire, hein, où une minorité détient le pouvoir économique et politique et fait travailler l'immense majorité, comment il se fait que ça tienne? Et donc, alors j'ai travaillé à la fois sur les discours et les imaginaires, comment on légitime un système de domination, puis j'ai travaillé aussi sur les techniques de répression, de coercition, de surveillance, de contrôle. La première partie de ce travail s'était paru dans un bouquin qui s'appelle « L'ennemi intérieur », qui est sorti en 2009.
Et aux donc éditions là, La Découverte.
À La Découverte. Donc, c'était une histoire du système sécuritaire depuis les guerres coloniales. Et à l'intérieur de cette enquête, j'avais repéré toute une nébuleuse de personnalités qui travaillaient en réseau pour promouvoir toute une série d'idées sur comment il faut contrôler la société, qui sont les ennemis intérieurs, quels sont leurs réseaux à l'extérieur, qu'est-ce qu'on doit protéger, qu'est-ce que la propriété, la nation, etc. Et donc, étaient des réseaux de gens assez influents, mais qui n'étaient pas non plus tout en haut du bloc de pouvoir, hein, qui circulaient entre les universités, des centres de recherche qui passaient énormément dans les médias dominants, qui très souvent étaient patrons d'entreprises de sécurité privée en parallèle. Et donc là, j'ai appelé la bande à Bauer. En tout cas, j'ai enquêté sur un groupe particulier, notamment qui est assez caractéristique puisque c'est le groupe qui domine le champ. Alors la bande à Bauer, ça parle d'Alain Bauer, qui est l'un de ses spécialistes autoproclamés, et pas seulement autoproclamés, parce qu'en fait il a quand même beaucoup de répondants. Enfin, c'est-à-dire que dans les médias dominants, on aime l'inviter parce qu'il est disponible, mais aussi parce qu'il sert un discours qui reflète bien les intérêts de leurs financeurs. Donc autour d'Alain Bauer, il y a toute une série de personnes qui travaillent autour de ce que j'appelais le marché de la peur, c'est-à-dire qui inventent, qui innovent, qui produisent des idées, des marchandises, des notions marchandises, ils produisent de la peur et ils les font circuler. Et dans la manière dont ils vont les légitimer auprès des gouvernements, dans les médias, etc., ils vont pouvoir ouvrir de nouveaux marchés en termes de contrôle, de surveillance et de répression. C'est-à-dire qu'en gros, les idéologues sécuritaires remplissent une fonction particulière dans les sociétés de contrôle actuelles, c'est-à-dire dans des sociétés qui sont organisées autour de la production de la peur. Eux détiennent certains leviers qui sont l'invention de nouvelles peurs et leur diffusion dans les mentalités collectives. Alors, en septembre, m'a demandé de fabriquer un outil sur Alain Bauer, Xavier Hofer, etc., histoire de mettre à disposition
un décryptage
de leur parcours personnel, mais aussi une prise de distance théorique sur qui sont ces gens-là, à quoi ils servent, quelle place ils occupent dans le système sécuritaire.
Voilà, peut-être que pour commencer, on va partir de la peur et comment la peur peut ramener un maximum de thunes à un minimum de gens. Et donc, pour commencer, un petit extrait de ton bouquin, c'est « Plus les analyses des idéologues sécuritaires sont prises en compte, plus les taux de criminalité et les menaces hybrides augmentent. Il n'en faut pas plus pour montrer qu'un mensonge tacite se cache derrière l'idée qu'on sécuriserait pour faire baisser l'insécurité. En l'occurrence, c'est bien la sécurité qui fait augmenter le sentiment d'insécurité. Ainsi, plus on déploie de policiers dans une zone, plus se répand l'idée que la zone est à risque. D'autre part, le sentiment d'insécurité croît avec la précarisation et l'isolement social. Les plus précaires et les plus isolés ont peur d'être seuls face à l'adversité. » Et donc voilà sur quelle aussi base s'organise le discours de toute cette petite bande et de ceux qui vont avec.
C'est ce que je voulais montrer. En l'occurrence, gouverner en utilisant la peur, c'est quelque chose qui existe partout où on a gouverné des gens. A priori, partout où on a trouvé une forme de hiérarchie sociale, des rapports de domination, on trouve une manière d'employer la peur pour gouverner. Par contre, il se passe quelque chose d'intéressant au XXe siècle, c'est que ce mécanisme-là, ce dispositif-là, il va être saisi par toute une série d'intérêts, et notamment par le fait que le contrôle est devenu un marché. Et donc cette possibilité-là, le fait qu'en sécurisant, on insécurise, et donc on fait augmenter le sentiment d'insécurité, qui est quelque chose qui est quasiment impossible en fait à évaluer d'un point de vue quantitatif, mais en tout cas qui apparaît dans des formes dans des sondages où on demande aux gens qu'est-ce qui vous fait le plus peur. Bien sûr, dans des sondages qui sont organisés de telle manière qu'on puisse pas dire ce qui me fait le plus peur, c'est de me retrouver au chômage, c'est de me retrouver à la rue, etc. Mais on va vous renvoyer plutôt vers les violences urbaines, le terrorisme, etc. Cette possibilité-là d'ouvrir des marchés en désignant de nouvelles peurs, et des peurs donc qui seraient ressenties par la population elle-même, c'est-à-dire que la population demanderait elle-même qu'on la sécurise, donc qu'on développe des matériels et des techniques de sécurisation. Cette possibilité-là, elle a été saisie au courant à partir du début des années 70, ce qu'on appelle la crise de 73, et en fait qui est une restructuration du capitalisme. En gros, ce que j'essaye de montrer, c'est que au cours du XXe siècle, ont émerger des acteurs extraordinairement puissants qui sont les complexes militaro-industriels, des consortiums industriels qui vivent de la guerre et de la guerre permanente. Et en l'occurrence, ils se sont bâtis entre les deux guerres mondiales, et à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient réussi à s'installer dans le capitalisme occidental comme des acteurs décisifs, et qui vivent depuis ce temps-là de quelque chose qui ressemble à une forme de guerre permanente qui prend forme à droite ou à gauche, mais quelque chose de constant, et donc qui développe des marchés gigantesques, et notamment aux États-Unis, mais on peut le dire pour la France aussi, des marchés fondamentaux pour tout le système économique.
C'est lié à un truc que tu dis dans ton livre, c'est que maintenir la sécurité, c'est un état très précaire, et que du coup, à partir du moment où on décide de vivre dans un état sécuritaire, enfin le plus sécurisé possible, et ben ça implique une guerre permanente. Quoi,
ça implique ça. Une guerre permanente, et ça provoque des désordres. Et ça, ce qui est intéressant, je pense qu'on voit assez bien dans le livre, c'est que les gens qui gèrent ce phénomène-là en sont bien conscients. Ils savent très bien que quand on quadrille un quartier populaire avec des CRS, ça va déclencher des désordres, et donc ça va permettre d'utiliser des forces anti-émeutes, etc. Ça va permettre même de médiatiser le quartier comme un quartier sensible, et donc de lancer tout un projet de rénovation urbaine, où là c'est même l'industrie de l'immobilier qui va se gaver. Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est que pour renforcer leur taux de profit, au début des années 70, les capitalistes lancent une nouvelle restructuration et qui va être en gros l'invention du marché de la guerre intérieure. Et en gros, ce qui est la sécurité. C'est-à-dire que quand on regarde ce que font ces complexes militaro-industriels, et ben à partir du début des années 70, ils commencent à désigner des nouvelles menaces. Alors, en parallèle de la menace communiste et révolutionnaire internationale, ils vont commencer à parler de la délinquance, de l'incivilité, de la criminalité, etc. C'est-à-dire des menaces, entre guillemets, qui ont toutes en commun d'être des menaces venant de la population, ce qu'ils appellent la population, et en réalité, ce qu'ils nous entendent, c'est les classes populaires. C'est-à-dire qu'en désignant toute une série de menaces à l'intérieur des classes populaires, on va générer toute une série de marchés et de champs de production, de nouvelles formes de contrôle, de surveillance et de répression. Et donc à ce niveau-là, les idéologues sécuritaires, les gens qui ont réussi à s'installer entre les universités, les médias, la classe politique, et qui se sont donné les moyens d'inventer de nouvelles peurs cachées dans les classes populaires, de nouvelles menaces, et de les diffuser et de les légitimer, ces gens-là vont avoir énormément de pouvoir.
Ouais, parce que on considère que le marché de la sécurité dans le monde représenterait à peu près 100 milliards de dollars par année. Donc, sachant que les guerres inter-États sont quand même en diminution par rapport à certains moments, même si les budgets de l'armée et ça sont quand même toujours élevés, il y a une énorme part du marché qui est prise par les guerres intérieures, c'est-à-dire par la gestion de la sécurité, soit en curatif, soit en préventif.
Ce qui désigne bien un peu mon boulot, ça tournait aussi autour de la contre-insurrection, et la contre-insurrection, c'est cette espèce de machinerie entre le maintien de l'ordre et la guerre. C'est-à-dire, la sécurité, finalement, c'est un peu, comme tu dis, le déploiement d'une guerre intérieure, une forme de gestion de la guerre sociale, où on a pris conscience, dans le courant des années 70-80, qu'en sécurisant, on créait des désordres, et ça pouvait du coup ouvrir des nouveaux marchés. Et là, donc, il se pose une nouvelle question, et qui est une question qui intéresse énormément les idéologues sécuritaires, c'est comment créer des désordres gérables, puisque bien entendu le but n'étant pas de... quand tout à l'heure tu parlais du fait que j'évoque le système sécuritaire comme quelque chose de bancal et de précaire, bah, effectivement c'est un système qui joue en permanence à provoquer des désordres, et en essayant de provoquer des désordres qu'il va pouvoir gérer. C'est ce qu'on voit bien autour de 2005, c'est-à-dire la répression des révoltes en 2005. Le pouvoir politique a appliqué un plan de répression qui était déjà dans ses tiroirs, qu'il s'agissait d'expérimenter. Donc là, il a joué une expérience. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Il s'est rendu compte que quand un grand nombre de quartiers populaires se révoltaient en même temps, ça devenait difficile à gérer. Bon, bah, il en a pris conscience. Et depuis, il essaye d'améliorer, de rationaliser son système de contrôle en fonction de ça. Ce qui est une question... les violences urbaines, d'ailleurs, entre guillemets, puisque c'est une notion policière, c'est un des thèmes favoris avec le terrorisme de ces idéologues sécuritaires, parce que justement ça permet donc à la fois d'ouvrir des marchés économiques mais aussi des marchés politiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on désigne des ennemis intérieurs au sein des classes populaires, ça permet de diviser les classes populaires. La figure du casseur, la figure de l'islamiste plutôt dans les années 90, ça permet de diviser les classes populaires entre elles aussi.
Donc pour revenir sur comment on arrive à faire des thunes avec le sécuritaire, toujours dans ton livre, le criminel produit non seulement la criminalité, mais aussi la loi criminelle. Il produit le professeur qui donne des cours au sujet de la loi criminelle et de la criminalité, et même l'inévitable livre de base dans lequel le professeur présente ses idées et qui est une marchandise sur le marché. Il en résulte un accroissement des biens matériels, sans compter le plaisir qu'en retire l'auteur du dit livre. De plus, le criminel produit tout l'appareil policier, ainsi que l'administration de la justice, les détectives, les juges, les jurys, etc., et toutes ces professions différentes qui constituent autant de catégories dans la division sociale du travail, développement des habiletés diverses, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est on voit bien comment juste un fait qui est utilisé par des idéologues ou enfin à des moments, mais aussi qui se produit réellement dans la société, va produire tout un tas de produits dérivés.
Alors l'extrait que tu cites là, c'est une citation de Marx, c'est pas de moi, qui a été retrouvée il y a quelques années en fait dans des papiers qui avaient pas été publiés, donc un texte qui a été appelé Les bénéficiaires secondaires du crime et que je mets en début de l'ouvrage, parce que justement on voit que la Marx, dans la dernière partie du 19e siècle, avait déjà vu l'émergence d'une sorte de couche à l'intérieur de la bourgeoisie qui se spécialiserait dans la gestion du crime, et il avait commencé à poser les bases d'une analyse de la criminalité comme système de production, c'est-à-dire le criminel produit du crime, mais il produit aussi tous les gens qui vivent de la soi-disant réduction du crime, qui en fait ont besoin de ce crime. C'est-à-dire donc cette manière d'envisager le crime comme un champ économique pour les chasseurs de criminels. J'ai repris ce texte-là pour comme point de départ de cette analyse-là, parce que du coup ça montre bien que la fonction des idéologues sécuritaires, qui a pris une récente depuis une vingtaine d'années, elle était contenue déjà dans ce capitalisme industriel qui émergeait au 19e siècle.
Donc une partie de ces gens-là et une partie de la marchandisation de la peur vient entre autres d'une théorie américaine dont peut-être on peut dire quelques mots, qui est la théorie de la sécurité nationale. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il retourne ?
Alors c'est à la fois une théorie, une doctrine, presque une technique de gouvernement, en gros qui émerge pendant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis et qui émerge à la tête justement de ce complexe militaro-industriel dont Eisenhower, quand il avait rendu son mandat, il avait mis en garde l'ensemble de la société américaine en disant et attention, c'était pas Eisenhower, n'était pas un humaniste, et il disait attention, de la Deuxième Guerre mondiale est né un complexe gigantesque qui vide la guerre, il va falloir faire très attention à ça. Et en gros, la sécurité nationale, c'est le système, c'est l'utopie du complexe militaro-industriel, c'est-à-dire c'est un système dans lequel l'État est restreint à sa fonction de police et de régulation du marché, où il n'intervient plus du tout en termes sociaux, de services publics, etc., mais où il assure le contrôle, la répression des ennemis intérieurs dans le cadre d'une guerre globale contre le communisme international. En gros, moi, c'est une des problématiques qui.
Là, le communisme, c'était
ouais, entre guillemets,
c'était parce que c'était l'ennemi du moment. Quoi.
Voilà, c'est ça. Et puisqu'ils eux appelaient le communisme, c'était le capitalisme monopoliste d'État en Union soviétique, qui avait rien à voir avec ce que Marx appelait le communisme. Et donc, cette idéologie, cette doctrine de la sécurité nationale considère qu'il faut que l'État investisse majoritairement dans ses pouvoirs de police et dans l'industrie militaire, qui arrête d'investir dans le social. Et donc c'est une problématique qu'on va voir, qui va être saisie à partir des années 70 dans la restructuration néolibérale, parce qu'en fait ça correspond parfaitement, les intérêts du complexe militaro-industriel vont correspondre parfaitement avec les intérêts de la classe politique au début des années 70, c'est-à-dire confrontée à des révoltes ouvrières et étudiantes au niveau international, on va aller chercher des techniques de contrôle de la société, et notamment des classes populaires et des universités, des techniques beaucoup plus fortes. Voilà, alors
comment ça va se traduire dans ces années-là, peut-être en quelques mots?
En France ça se traduit pas tout de suite, ça va se traduire par au niveau international par d'abord différentes structures, j'en parle un petit peu dans le livre, notamment donc la CIA qui va mettre en place dans l'ensemble du monde occidental des réseaux dormants qui s'appellent des stay behind, ça veut dire rester derrière, qui sont des réseaux où on va aller chercher des anticommunistes, donc plutôt dans l'extrême droite. On va aller recruter des policiers, des militaires, des gens dans les services secrets, pour les former à résister à une révolution communiste, c'est-à-dire à prendre le pouvoir politique par la force et à mettre en place une dictature au cas où il y aurait des soulèvements révolutionnaires.
Et où, à certains moments, à créer des petits événements ou des gros événements qui vont permettre de détourner le regard sur ce qui se passe réellement.
Voilà. Alors, il y a plein de choses qu'on a du mal à saisir, notamment parce que ces groupes-là, les Stay Behind, donc il y en a eu dans tous les pays en Europe, et il y en a eu jusqu'en Turquie, en Grèce et en Turquie. Parfois, ils ont été employés de manière stratégique, c'est-à-dire on savait ce qu'on faisait. Par exemple, en Italie, certains attentats qui ont été attribués aux anarchistes avaient été réalisés par l'extrême droite, manipulés par les services secrets, c'est-à-dire que même les gens composaient les bombes de l'extrême droite savaient pas forcément pour qui ils travaillaient ou pour quel intérêt, puisqu'ils étaient aussi anti-américains, et donc ils n'avaient pas forcément envie de poser des bombes pour la CIA, mais ils s'en rendaient pas forcément compte. Où donc là, il y a une stratégie évidente qui a été mise en place, donc j'en parle dans le livre, cette stratégie, elle résonne avec certains montages médiatico-policiers aujourd'hui, donc je parle de l'affaire de Tarnac notamment, où on retrouve les mêmes séries d'acteurs. Le Xavier Hofer, dont j'étudie le parcours dans le livre, eh ben on suit son parcours d'idéologue sécuritaire depuis cette époque de la contre-insurrection en Italie jusqu'à aujourd'hui, où en fait on se rend compte qu'il applique à peu près les mêmes stratégies. Et alors, comme tu disais, il y a des fois où on ne sait pas très bien si ça a foiré, si la CIA maîtrisait pas très bien ces réseaux-là, mais il y a eu toute une série d'attentats ou d'actions violentes qui ont été réalisées par ces réseaux-là pendant les années 70 en Europe, et où on ne sait pas toujours très bien si c'est pas ces réseaux-là qui, mal gérés, ont débordé. C'est-à-dire ont commencé à faire de la contre-révolution sans révolution.
Mais on voit bien en tout cas l'intérêt que ça a eu pour le pouvoir politique de créer un ennemi donc désigné à ce moment-là et de fabriquer du coup tout un arsenal sécuritaire pour résister contre cet ennemi et puis du coup renforcer le pouvoir sécuritaire d'un État, quoi.
C'est ça. C'est ce qu'on peut appeler le laboratoire italien, mais en fait qu'on a vu émerger dans pas mal de pays. Bon, en Italie, c'est resté très symbolique parce que l'histoire est maintenant bien connue et que les acteurs de l'époque ayant parlé, on sait exactement qui a posé les bombes, par qui ils étaient payés, par qui ils étaient financés. Donc on sait que derrière ce qu'on appelait le Gladio, il y avait effectivement la loge P2 du Vatican et la CIA. Ce qui fait, vu qu'on connaît bien la cartographie de ce montage-là, c'est devenu symbolique de ces techniques de contre-insurrection à l'intérieur du territoire. Il y a des exemples de ça partout, et notamment en France. Et donc quand on suit le parcours de Xavier Hofer, lui par exemple, il vient de l'extrême droite. À cette époque-là, il est à Occident, donc un parti d'extrême droite radicale qui milite pour un Occident blanc et, comme ils disent dans une de leurs revues, pour tuer les communistes partout où ils se trouvent. Cette personne-là, à cette époque-là, commence à travailler pour le grand patronat et à faire des enquêtes, des conférences sur le gauchisme, sur la différence entre les maoïstes et les trotskistes, par exemple. Et donc, en fait, il devient pas encore idéologue sécuritaire, mais il devient expert en gauchisme, gauchistologue pour le grand patronat, à cette époque-là, au même moment où il baigne dans tout ce réseau d'extrême droite anticommuniste international qui vise à désigner des ennemis intérieurs rouges dans la population pour mieux mettre en place des systèmes de sécurité nationale. Et ce Xavier Hofer, il est assez représentatif finalement de cette histoire de l'idéologie sécuritaire et de ce lien continue entre l'idéologie identitaire, entre l'extrême droite et l'idéologie sécuritaire. Ce type-là donc commence comme gauchistologue au service du grand patronat, et puis petit à petit il va être intégré dans la grande presse, il va rentrer à l'Express et il va faire son chemin à travers, dans les années 80, à travers les médias dans lesquels il va diffuser le même type d'idées, avec une couverture un petit peu plus démocratique, où il va arrêter de dire qu'il faut tuer tous les communistes, mais il va dire que le problème, c'est donc l'émergence de l'islam, c'est le terrorisme révolutionnaire, c'est les luttes anti-impérialistes, etc. L'immigration. Et donc il va faire son chemin petit à petit dans la grande presse, où là, il va devenir expert en toutes sortes de choses. Il va s'autoproclamer et être proclamé par les médias qu'il emploie comme expert du terrorisme, de l'incivilité, de la délinquance, des violences urbaines au début des années 90. Et cette personne-là, eh ben, on la retrouve dans l'affaire de Tarnac, par exemple, comme expert en terrorisme, qui nous explique que donc les gens qui habitaient à Tarnac étaient, en leur appliquant le théorème du décèlement précoce, qui est leur grande marchandise à ces idéologues sécuritaires, on pouvait imaginer qu'ils allaient
attraper la bête avant qu'elle fasse quelque chose.
Avant qu'elle ait fait quoi que ce soit. Ce qui est un peu le thème du film Minority Report, et en fait, ce que j'essaye de montrer, qui est la bande à Bauer, leur marchandise principale, c'est cette idée de décèlement précoce. C'est-à-dire qu'on pourrait trouver les germes de la criminalité, de la délinquance, du terrorisme, chez certaines personnes, dans certains groupes, avant même qu'ils soient passés à l'action. Et donc les arrêter préventivement. Et c'est cette idée-là qui a été appliquée dans l'affaire de Tarnac, la bande à Bauer, ayant repéré ces gens-là et pensant qu'ils sont de dangereux insurrectionnalistes, se dit affirment qu'ils vont suivre le même parcours que Action Directe. Ils affirment que Action Directe faisait du terrorisme, etc. Et donc ils vont finir par poser des bombes. Et donc en l'occurrence, on met en place un montage médiatico-policier, on embarque des journalistes après avoir suivi les gens, fichés, etc. Et puis on fait un gros coup, on débarque à Tarnac et on arrête les gens, etc. Et on en fait un gros coup médiatique en expliquant que ces gens-là allaient sûrement passer à des actions beaucoup plus violentes. Voilà. Et donc j'essaye de montrer à la fin du livre que la comparaison entre Tarnac et l'Italie des années de plomb, ça nous montre un petit peu cette espèce de passage lent entre la contre-révolution modèle années 70 et le système sécuritaire. C'est un peu le fond de mon travail en général, c'est d'essayer de montrer que le système sécuritaire est une forme de rénovation des techniques de contre-révolution et de contre-insurrection.
Voilà, donc du coup, une partie de ton travail, c'est aussi de décortiquer qui sont toute cette bande à Bauer. Donc toi, tu fais trois espèces de sous-cases de six idéologues, avec donc les activistes, avec un peu Rofer dont on vient de parler, les gestionnaires et ceux qui sont opérationnels, managers et spécialisés.
Voilà, en gros, donc quand on regarde la bande à Bauer, donc là, par exemple, il y a quatre chapitres à l'intérieur du livre qui focalisent chacun sur une personnalité de... Bon, parce que Bauer, donc en ayant réussi son petit pouls universitaire et en s'étant fait créer une chaire spécialement pour lui au CNAM en criminologie, au Conservatoire National des Arts et Métiers, donc il se fait créer par Sarkozy une chaire en criminologie, ça n'existait pas jusque là, et bien, donc elle est créée pour lui, on lui attribue malgré l'opposition de toute la communauté universitaire, et donc à ce moment là lui dit bon bah voilà, on a réussi à arriver à ça grâce à une bande d'amis. Et donc je prends les gens qui sont cités dans cette bande d'amis pour aller voir un petit peu qui c'est. Donc il y a Rofer, dont on vient de parler.
Issu de l'extrême droite.
Il y a Yves Roucotte, dont je vais parler peut-être un petit peu. Et puis il y a François Haut, le directeur du département en recherche sur les menaces criminelles contemporaines, qui est un peu l'espèce d'institut de recherche et de propagande du clan Xavier Rofer. Quand on regarde le parcours de ces gens-là, eh ben, on peut mettre en évidence trois moments, disons trois âges de l'idéologie sécuritaire et qui sont bien représentés par trois types de personnages. Alors le premier type, c'est ce qu'on envisageait tout à l'heure autour de Rofer, c'est des types qui viennent de l'extrême droite, donc qui sont recrutés pour leur anticommunisme et qui sont souvent des gens qui viennent d'une extrême droite activiste, c'est-à-dire des types qu'on... Rofer, il l'a reconnu, il a participé à des actions violentes contre une ambassade, des choses comme ça. Bon, c'est la vieille génération. On a au début des années 80 une nouvelle génération qui apparaît, donc là qui est plus celle d'Alain Bauer et d'Yves Roucotte, où là c'est plutôt des gens de la gauche anticommuniste, et donc ce qui correspond bien à ce qui se passe aux États-Unis, où tout le mouvement néoconservateur, qui est lui le porteur de l'idéologie de la sécurité nationale et des intérêts des complexes militaro-industriels, bah pareil, il vient de la gauche anticommuniste. Et donc comme on le savait déjà, une grande partie de la gauche anticommuniste au début des années 80 est soutenue financièrement ou par d'autres moyens par la CIA, puisque ça lui intéresse énormément de développer une gauche capitaliste, régulationniste, pour couper l'herbe sous le pied des révolutionnaires. Donc ces gens-là vont se faire une nouvelle place au début des années 80, et donc Alain Bauer, par exemple, donc un ancien de l'UNEFID, des réseaux rocardiens, un syndicat étudiant de gauche anticommuniste, dans les réseaux rocardiens, etc., va petit à petit lui aussi se positionner comme un spécialiste des questions de sécurité et de défense. Et puis lui va très vite être recruté directement par les réseaux de la CIA, on pourra en parler, par la SAIC, qui est le principal complexe aux États-Unis qui vit du marché public de la guerre, c'est-à-dire une espèce d'entreprise gigantesque qui à sa tête nomme des anciens du Pentagone ou de la CIA, donc qui vont être dans les bureaux où se décident les budgets, et donc qui vont diriger cette entreprise-là qui dévore les budgets, le budget de l'État nord-américain. Bon, bah, Bauer va être recruté par ces gens-là, notamment pour faire le même type de travail en France. Bon,
ça veut dire se rendre disponible pour les gouvernants, pour leur raconter ce qu'il comprend de ce monde.
C'est ça. En gros, ça va être une sorte de cheval de Troie de l'impérialisme américain. Alors après, c'est pas aussi, j'allais dire, manichéen. Enfin, ça dépend des situations. C'est-à-dire que Bauer, de temps en temps, les gens qu'il représente, vont travailler pour les intérêts des complexes militaro-industriels en général, mais après ils vont travailler pour des intérêts particuliers en fonction de qui les finance, en fonction de leurs amitiés politiques et économiques. Bon, parce que par exemple sur le marché de la guerre et sur le marché de la sécurité, bah, y a de la concurrence aussi, c'est-à-dire que les groupes entrent en concurrence entre eux, et donc certaines idées vont favoriser certains marchés et certains marchands. Donc on a... se forme dans le courant des années 80 une deuxième génération qui va rayonner dans les années 90, qui est une génération qui vient plutôt de la gauche anticommuniste et qui, elle, va s'installer autour de de position médiatique, c'est-à-dire en commençant à acquérir une position qui leur permet d'intervenir et d'être influents dans les médias. Ils vont être reconnus par les complexes militaro-industriels comme des gens susceptibles de diffuser les idées qui servent les marchés de la sécurité. Et donc ils vont avoir beaucoup plus de... C'est eux qui vont mettre en place réellement le passage dans les années 90 à la privatisation du marché de la sécurité. La première génération avait accompagné l'ouverture des marchés publics du contrôle de la sécurité. La deuxième génération accompagne la privatisation, l'ouverture des marchés privés de la sécurité dans les années 90. Et ce qu'on repère, c'est qu'autour de la bande à Bauer, mais en général parmi les idéologues sécuritaires, il y a une troisième génération qui apparaît au début des années 2000 et que j'appelle spécialisée, mais qui est en fait une espèce de mixte entre la génération de l'extrême droite des années 70 et la génération de la gauche anticommuniste des années 80. Donc je parle de spécialisés parce que c'est des gens qui vont plus être des experts généraux du terrorisme, etc., qui passent comme Bauer et Rofer un peu quand ils veulent à la télévision, mais qui sont des gens qui vont spécialiser dans un domaine, c'est-à-dire les nanotechnologies, la biométrie, les menaces aériennes, etc.
Le contrôle d'Internet aussi.
Par exemple. Bon, voilà. C'est des idéotypes, simplement pour montrer l'évolution du marché de la sécurité, du marché du contrôle, et pour bien montrer que ces gens-là, finalement, en quelque sorte, sont que des corps manipulés par des systèmes d'intérêt, c'est-à-dire que Rofer, Bauer, etc., finalement, c'est des produits de ce marché-là. Les idées qu'ils diffusent servent des intérêts. Ils sont des rouages à l'intérieur d'un processus. Voilà, en gros.
Peut-être que ce serait intéressant d'essayer de voir un peu où ils sont, ces gens, parce que du coup, là, on en parle. Je pense que les choses paraissent assez claires, mais qu'on a du mal à s'imaginer où sont exactement ces gens dans la société française aujourd'hui. Et puis, mon Bauer, on l'entend systématiquement dès qu'il s'agit de parler d'insécurité, de sécurité, etc. Il a toujours un petit mot à dire. Mais du coup, ils ont plein de copains, et ces copains sont un peu disséminés partout dans le paysage politique français.
C'est ça. Et puis, ils se sont construits toute une série de réseaux et d'instituts parapublics voire même para-privé, qui leur permettent de rayonner. C'est-à-dire que, par exemple, Bauer, quand il va passer à la télévision, va même parfois être caricaturé ou passer pour simplement une sorte de camelot, alors que c'est quand même quelqu'un qui a énormément de pouvoir, et c'est ce que j'essaie de montrer dans le bouquin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en ayant réussi à circuler entre les réseaux de la gauche rocardienne et en devenant l'un des principaux conseillers de Sarkozy, va permettre aux marchands de sécurité de diffuser leurs idées sur n'importe quel type de gouvernement. Et ce qui est particulièrement intéressant pour les financeurs d'Alain Bauer. Et donc ce type-là va pas seulement d'idéologue sécuritaire, va devenir une sorte d'architecte, de transformateur de la superstructure des sociétés de contrôle. C'est-à-dire que à mesure que les sociétés de contrôle s'organisent, se développent, la peur devient quelque chose de beaucoup plus central, de fondamental, et les gens qui sont capables de diffuser et de légitimer la peur vont acquérir du pouvoir. Et Bauer est l'incarnation typique de ce phénomène-là, puisqu'il va être doté petit à petit de toute une série de fonctions qui vont lui permettre même de transformer tout le champ. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, donc on a parlé tout à l'heure de son petit putsch au CNAM, où il s'est fait créer une chaire universitaire pour se légitimer, puisqu'il n'en avait pas jusque-là, il n'avait pas de fonction universitaire. Mais à côté de ça, il est mandaté par le gouvernement pour toute une série de réformes en termes de sécurité publique, dans la transformation des instituts de recherche aussi sur la sécurité, et ce que lui appelle la pensée stratégique. En gros, il a été chargé notamment de réunir tous les instituts de recherche en sécurité et en défense à l'intérieur d'un même organisme. Bien sûr, il se retrouve à la tête de cet organisme, et c'est-à-dire qu'il va désormais, depuis janvier 2010, piloter d'un point de vue général les instituts publics de recherche sur les questions de sécurité et de défense, devenir il va prendre les commandes des idées officielles sur qui nous menace, qu'est-ce qui est à nous, comment s'en défendre, etc. C'est-à-dire que de simples serviteurs des intérêts des marchés de la guerre et du contrôle, ce personnage-là va être transformé en chef de projet, en petit architecte d'une transformation des sociétés de contrôle elles-mêmes.
Pour les pouvoirs publics.
Et aussi, j'allais dire même principalement pour les deux. Bauer joue sur ces deux stratégies-là, c'est-à-dire sur le maintien de l'ordre et la légitimation du pouvoir politique, mais aussi pour le développement des intérêts des marchands de sécurité.
Qui vont dans le même sens.
C'est ça l'ambiguïté de Bauer, c'est-à-dire que. Mais qui vont dans le même sens, ça dépend des fois, en fait.
Ok, et donc ça c'est les trois gros blocs d'organes, enfin les trois façons d'être idéologue du sécuritaire en France aujourd'hui. Et concrètement, il y a tout un tas de leurs copains aussi qui sont actuellement au gouvernement, par exemple, et ou élus de diverses façons.
Bah, ça c'est intéressant, c'est quand on suit donc le parcours de Xavier Hofer notamment. Donc je disais qu'il vient de l'extrême droite radicale activiste des années 70. Et qui, dans le courant des années 70, va être recruté par les réseaux de Georges Albertini, un ancien collaborationniste qui est dans l'ombre de tous les présidents de la République sous la Ve République, enfin jusqu'au début des années 80, et qui, de la même manière qu'il l'a fait avec Hofer, va en fait, pour le compte de la CIA, puisque lui aussi bosse pour la CIA, recruter toute une génération d'anciens, toute une génération de jeunes activistes d'extrême droite pour les faire entrer dans la droite classique. Ce qui est un peu, donc là, l'illustration du fonctionnement de l'instrumentalisation de l'extrême droite par la bourgeoisie en général. C'est-à-dire qu'il faut bien voir ça comme ça. L'extrême droite est un répertoire d'idées et de techniques que la bourgeoisie laisse proliférer, entretient et dans laquelle elle va piocher en permanence quand elle en a besoin. Et de temps en temps mettre
des électorales ou des visées de contrôle social.
De temps en temps même en prendre un petit fasciste et le mettre au pouvoir, comme ça s'est passé en 1933, etc. C'est ce qui se passe exactement avec Hofer et sa génération, c'est-à-dire que tous ces jeunes activistes de l'extrême droite radicale vont être réintégrés via les réseaux de Georges Albertini dans une droite plus classique et vont rejoindre soit les réseaux de Giscard, soit ceux de Chirac, et petit à petit rentrer soit dans les grands médias, soit dans les cabinets politiques de cette droite qui arrive au pouvoir à partir de 86, de cette nouvelle droite. Et donc toute cette clique-là, on va les voir arriver dans le courant des années 90 au gouvernement à des postes clés parfois. Alors cette clique-là, dedans, bah, y a Hervé Novelli par exemple, et puis bah, y a Gérard Longuet qui vient de devenir ministre de la Défense et donc qui est lui aussi un ancien d'Occident, c'est-à-dire un ratonneur des années 70. Et donc là, bon, je parle de 5-6 personnes là-dedans, mais en fait, ont été recensées plus d'une centaine de personnes qui venaient de l'extrême droite radicale dans les années 70, qui ont intégré la droite classique dans les années, enfin, la fin des années 70, début des années 80, et qui, à partir entre 86 et les années 2000, ont tous petit à petit eu des postes au gouvernement et qui œuvrent, enfin, ce processus-là illustre, on peut mieux le fait que, enfin, ce concept de l'eupénisation des esprits, ça s'est pas fait de manière accidentelle. C'est-à-dire qu'il y a une génération d'activistes d'extrême droite qui est arrivée au gouvernement petit à petit avec leurs idées, leur stratégie de gouvernement, leur voilà. Et enfin, ce qu'on voit bien en suivant le parcours de Hofer, c'est que ces gens-là sont entrés dans la droite classique en étant formés au néolibéralisme. C'est-à-dire que dans l'extrême droite radicale, ils axaient leur discours essentiellement sur l'immigration, le gauchisme, etc. Et puis, d'un point de vue économique, ils étaient plutôt protectionnistes, ou enfin bon, ça dépendait, ils n'avaient pas forcément d'idées là-dessus. Et sauf qu'on va les former à travers les réseaux atlantistes à l'idéologie néolibérale, c'est-à-dire au fait de dire, bon bah, en plus d'un État fort sur ses frontières et sa police, il faudrait un État qui arrête de dépenser des thunes dans le social et qui ouvre les marchés. Et notamment les marchés de la sécurité publique puis privée. Les gens, enfin cette extrême droite qui s'est convertie à l'idéologie néolibérale, on va lui ouvrir toutes les portes et elle va arriver au pouvoir entre la fin des années 80 et le courant des années 90. Ce qui résume assez bien la nature du système dans lequel on est actuellement, c'est-à-dire que d'un point de vue politique, les conceptions de l'extrême droite classique sont, on peut le dire assez clairement, au pouvoir. Enfin, celles de l'extrême droite classique à la fin des années 80 sont désormais au pouvoir. Et d'un point de vue économique, on est dans une politique complètement affiliée aux intérêts directs des marchands de guerre et de contrôle.
Très bien. Donc, du coup, si vous voulez en savoir plus, et si vous voulez poursuivre la réflexion, eh bien, le bouquin, il s'appelle Les marchands de peur, la bande à Bauer et l'idéologie sécuritaire. Donc, c'est Mathieu Rigouste qui en est l'auteur autour de la table aujourd'hui, et c'est édité chez Libertalia.
Libertalia est une petite maison d'édition indépendante. Je ne sais pas si alternatif ça veut dire quelque chose, mais qui essaye de produire des outils, si ce n'est des armes intellectuelles dans ce contexte où il est devenu indispensable et nécessaire de s'autodéfendre intellectuellement en contexte de guerre sociale.
D'accord. Et donc, je répète, Les marchands de peur, la bande à Bauer et l'idéologie sécuritaire, vous le trouvez dans n'importe quelle librairie digne de ce nom. Il est à 8 euros. Et puis sinon, il est commandable sur Internet, Libertalia.
Oui, aussi sur le site de Libertalia.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup.
Eh bien, merci.
vaille, vaille, que vaille. Bye-bye.